Cette sexualité, donc il y a quelque chose de sale, hein. Saint Paul qui dit, ben voilà, ceux qui brûlent, grosso modo ceux qui ne peuvent pas se contenir, eh bien qu'ils trouvent une femme et les autres qui se consacrent à Dieu. Et un saint Augustin, par exemple, avait pareil. Et sans compter avec le jansénisme et le rigorisme moral du 19e siècle, où carrément on a vu la sexualité comme pratiquement s'opposant à Dieu. Hein, les purs esprits, hein, les dames de Port-Royal, ceux qui ont fait un petit peu d'histoire avec le jansénisme, les dames de Port-Royal, elles étaient, on leur disait, hein, pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. Mais il y avait cette idée que le corps, et ça, je vais vous expliquer d'où ça vient, le corps, quelque part, était un obstacle pour aller vers Dieu. Ce qui est, reconnaissez le bien, le comble pour une religion qui se réclame de l'incarnation. On y croit ou on n'y croit pas. Mais un Dieu qui a pris notre nature humaine, notre corps, l'incarnation a pris notre chair, on pourrait dire qu'on a une vision du corps plutôt positive. D'autant plus que cette vision du corps, elle va encore plus loin. Puisque chaque dimanche, qu'est-ce que vous professez? La résurrection de la chair. C'est-à-dire que nous croyons que, et c'est assez logique au fond, si nous croyons à une béatitude, à une plénitude, cette plénitude, elle ne peut pas être sans notre corps, parce que le corps et l'âme sont un et se répondent. Et donc je dis, on revient de très loin parce que vraiment, on a, et il faudra encore un petit peu galérer pendant pas mal peut-être de siècles, mais au fond, on revient de très loin parce qu'on a vu justement le rapport, l'union sexuelle, même dans le mariage, comme quelque chose, voilà, un peu sale, un peu la sexualité, alors que dans le corps humain, il n'y a rien de sale. Qu'est-ce qui est sale? C'est ce qui est dans notre cœur, dans le cœur de l'homme et de la femme. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans le corps humain, il n'y a rien de sale. Et je crois que Jean-Paul II, avec un peu quelques éléments que je vais vous donner, je ne prétends pas vous donner la totalité de sa doctrine en matière de théologie. Il a écrit tout un corpus un peu compliqué, si vous voulez ensuite approfondir, mais s'appelle la théologie du corps. Et du coup, Jean-Paul II, vous trouverez un peu un résumé dans un livre qui s'appelle donc La sexualité selon Jean-Paul II de Yves Semen, Semens, me semble-t-il. Et donc voilà, et c'est intéressant, il a donné en fait des pistes pour retrouver une beauté de la déjà de la relation conjugale, mais aussi une beauté du corps tout court. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il a donné des mots à l'Église qui lui manquaient pour pouvoir exprimer la beauté de la relation sexuelle. Et en même temps mettre des mots, et en même temps mettre en garde, et en même temps peut-être prévenir de certaines déviances justement qui s'opposent à cette beauté. Donc voilà, je vous demande la prière parce que ce n'est pas des choses si simples à parler, quand il s'agit d'en parler. En même temps, je me dis souvent le fait d'être consacré dans le célibat est une aide. Est une aide parce que mon je défie n'importe qui d'entre vous de venir à ma place, à moins qu'il y ait des amateurs, pour parler de ces questions-là. Pourquoi? Parce que c'est pas si facile comme couple de témoigner de sa sexualité. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, je dis 80-90%, parce qu'il me reste entre 20 et 10% de naïveté, vous avez eu des relations sexuelles, puis vous avez 28, 30 ans, etc. Bon. Juste un petit point là-dessus, peut-être de compréhension. Là aussi, je veux pas être, faut pas être idéologique. Pourquoi l'Église, peut-être, je sais pas, vous avez une réponse, mais pourquoi, d'après vous, l'Église demande, disons, invite les couples à s'abstenir de relations sexuelles avant le mariage? D'après vous, c'est quoi la réponse? Oh là, non, non, attends, attends, attends. Vas-y. Liberté. Liberté. Pourquoi alors? Dites liberté, c'est-à-dire que. Bah, tu peux expliquer un peu plus? D'abord, oui. Engagé, engagé, c'est ça? Donc je crois que. C'est ce que disait Jean-Paul II. Le corps, c'est le langage le plus fort. Et c'est assez intéressant de voir que. Et c'est pour ça que je vous invitais ce matin à une progressivité et le fait des étapes. Le corps, c'est le langage le plus fort. Et bien souvent, des personnes, ben, forcément, vous vous aimez, etc., il est important de ressentir de l'attirance sexuelle envers l'autre. Si vous sentez du dégoût envers l'autre, arrêtez tout de suite. Parce que là, il y aura un souci. Là, si vraiment... Non, mais c'est important de vérifier qu'il y a une vraie attirance. En même temps, c'est important de se dire que le corps, c'est l'intimité la plus grande. Pourquoi le corps, c'est l'intimité la plus grande ? Parce que le corps, c'est ce qui dit toute la personne. La personne entière est impliquée dans notre corps. Ce n'est pas le cas, je dirais, de notre parole, ce n'est pas le cas de notre regard. Le fait de se donner dans le corps, eh bien, d'une manière ou d'une autre, nous implique totalement. Et de ce point de vue-là, même si vous avez eu des relations intimes depuis que vous vous connaissez, etc., je vous invite, à vous de voir ce que vous pouvez faire, en tout cas je vous invite, justement pour vivre cette logique de l'amour, d'une parole qui s'incarne et qui rayonne, à vivre un certain temps d'abstinence. D'abstinence jusqu'au moment de votre mariage, justement pour ça, vous avez eu peut-être des relations sexuelles, peut-être pas, bon, certains d'entre vous pas, on choisit, d'autres en ont eu, et je crois vécu dans une vraie confiance et une vraie générosité. Il ne s'agit pas de choses perverses, etc. J'en suis intimement convaincu, et un véritable désir d'aimer. Vous avez eu des relations sexuelles, mais vous n'avez pas eu de relations matrimoniales. Quelle est la différence entre des relations sexuelles et des relations matrimoniales ? Fécondité, oui, ouverture à la vie, et puis elles sont pas signes d'une parole. Elles sont pas signes d'une parole, ces relations-là. Elles sont pas signes d'une parole que vous allez vous donner le jour. En termes de sens, je parle techniquement parlant, ne cherchez pas, il n'y a pas de... c'est pas le cours de SVT, là, donc... C'est, techniquement parlant, c'est pareil. Mais en termes de sens, et si vous venez frapper à la porte de l'Église catholique, c'est bien du sens que vous voulez donner à votre couple. Et donc, en termes de sens, c'est pas la même chose de dire une parole qui s'incarne. Et justement, c'est à chaque union intime, c'est comme l'actualisation de votre engagement. L'actualisation de votre parole. Donc je trouve ça très beau de voir, de découvrir justement comment à quel point, même vécu dans une grande générosité, un vrai désir d'amour, etc., comme vous avez pu vivre, j'imagine pour la plupart d'entre vous, des relations sexuelles, elles ne sont pas des relations matrimoniales parce qu'elles ne sont pas le signe d'un engagement. Et de ce point de vue-là, je trouve que en tout cas c'est à vous ensuite d'en parler en couple, moi je vous invite à ce temps d'abstinence, justement pour que le mariage soit montre un avant et un après. Vous voyez, c'est quelque part, que le mariage soit un départ, vous voyez, que ce soit fondateur, soit un fondement. C'est toujours possible de le vivre, hein, et justement parce que vous voulez, et le signe d'un don total. Et puis aussi, le fait des relations, comme on dit, prématrimoniales, fait que un des risques, en tout cas, c'est qu'on passe très vite sur d'autres formes d'intimité. Je pense, par exemple, à l'intimité spirituelle. Je suis quand même scié, je vous le dis très clairement, mes amis, de voir la difficulté que de couples catholiques, je suis en tant que catholique pratiquant, plus, à prier ensemble. Ah, mais mon père, vous rendez pas compte, c'est au niveau de la pudeur. Ah d'accord, ok, mais pourtant il y a d'autres formes de pudeur où vous êtes auxquelles les vêtements ne résistent pas. Donc du coup, il faudra peut-être m'expliquer là. C'est vrai que partager sa foi, c'est quelque chose de très fort. D'autant plus. J'entends de personnes pratiquantes, peut-être entre vous, dans votre couple, peut-être il y en a un qui est, c'est souvent, pas toujours, mais ça peut être le cas. Il y a des plus et des moins, etc. Mais de personnes engagées dans la foi, le mal qu'elles ont à prier ensemble, à se mettre ensemble devant le Seigneur et à exprimer leur prière. Tout simplement, on ne demande pas de faire des grands discours, de la théologie ou quoi que ce soit. Ne serait-ce, et ça je vous invite à le faire dès maintenant, ça pour le coup, à vous bénir. Avant de vous quitter, avant de vous endormir le soir si vous habitez ensemble, ben voilà, de vous, et après aussi le mariage, de vous bénir. Parce que pourquoi c'est important? Parce que c'est aussi l'irruption du sacré dans votre couple. C'est d'une manière ou d'une autre, cette présence de Dieu dans un geste tout simple comme la bénédiction, mais pour certains, ça leur coûte carrément, je veux dire, même se bénir. Or, vous venez frapper à la porte de l'église catholique pour un mariage catholique. Donc, on suppose quand même que vous êtes plutôt favorable au club. Donc, du coup, voilà. Mais pour ça, c'est, voilà, juste pour vous dire que il y a des pudeurs, mais on ne met pas le curseur au niveau de la pudeur au même endroit, quoi. Donc, alors, juste un peu pour résumer la question de la théologie du corps selon Jean-Paul II. Premièrement, c'est qu'il rappelle que le corps dit toute la personne. Toucher au corps de l'autre, c'est pas toucher simplement à l'épiderme de l'autre, c'est toucher à la personne de l'autre. Et de fait, on retrouve ça aussi au niveau juridique, hein, il n'est pas permis de commercialiser par exemple des parties du corps, il n'est pas permis évidemment de s'attaquer, de mutiler des parties du corps, etc. etc. Tout ce qui les atteint au corps sont punis gravement. Parce que justement, c'est des atteintes à la personne. Et sont bien plus punis bien plus gravement que les atteintes au bien. Évidemment. Et donc, du coup, c'est intéressant de découvrir que, à travers mon propre corps, il y a aussi ma personne. Et le rapport que j'ai à mon propre corps dira aussi le rapport que j'ai à moi-même. Hein, et de ce fait-là, je crois qu'il faut beaucoup de miséricorde. Et quand je vous parle, là, je ne suis pas là pour vous donner. C'est pas un donneur de leçons. Tous, on est des pauvres avec notre sexualité, moi aussi. Donc, de ce point de vue-là, je vous montre la beauté de ce que j'ai pu contempler, de ce que j'ai pu étudier, de ce que j'ai pu accompagner parmi les couples, mais en même temps, c'est un véritable combat. Donc, c'est intéressant de se dire que, à travers le corps de l'autre, c'est... Donc, quel a été aussi, dans votre éducation, le rapport au corps? Le rapport au corps, parce que, est-ce que vous... Déjà, vous-même, quelle vision vous avez de votre propre corps? Je m'adresse surtout aux jeunes filles, aux jeunes femmes, parce que je vois qu'il y a une grosse pression, je veux dire, en termes d'image, en termes de poids, en termes de forme, etc. On voit une très grosse pression sur les femmes, sur leur corps, bien plus que sur les hommes, du reste. Et je trouve de ce côté-là, il faut vraiment s'en sentir libre. Est-ce que vous êtes, oui ou non, à l'aise dans votre corps? Et c'est souvent au niveau de la psychologie que ça vient. Des personnes qui font 50 kilos et qui se trouvent trop grosses. Ça s'appelle l'anorexie. Donc c'est intéressant de dire que, à travers mon corps, je vais aussi rejoindre ma personne tout entière, ce que je suis, ma manière de me considérer, ma manière de vivre, et aussi, au fond... ma manière de me découvrir face au monde et face à l'autre. Parce que montrer son corps à l'autre, ce n'est pas si simple. De fait, les gestes d'amour, le geste d'amour conjugal, eh bien, mettent en jeu, en mettant en jeu le corps, mettent en jeu toute la personne. Et c'est vrai que de se donner dans l'amour intime, c'est se donner totalement. Et de ce point de vue-là, nous sommes invités, c'est pas simplement un besoin de satisfaction de son propre plaisir ou un besoin pour la reproduction, et Jean-Paul II y insiste, c'est le corps, c'est le lieu où je vais me donner à l'autre. C'est le lieu où je vais me recevoir de l'autre. Et donc, dans cet échange, dans cet aller et retour, il est important de découvrir qu'il y a quelque chose de sacré aussi dans ce don du corps. Ils ne feront qu'une seule chair. C'est intéressant dans la Bible, vous vous rappelez de ce passage, hein, et que Jésus rappelle aussi. Hein, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Pourquoi cette insistance sur une seule chair? Parce que cette une seule chair renvoie aussi à un Dieu qui est un. Donc il y a quelque chose dans l'union intime des époux qui a à voir avec l'unité de Dieu. Il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de beau, de transcendant. Ce n'est pas simplement le lieu de satisfaire ses propres pulsions. Hein, vous connaissez, peut-être vous avez choisi ça on appelle ça lecture pour votre messe de mariage. Toby, hein, je ne parle pas du chien, notre chien s'appelle Toby aussi, mais ça n'a rien à voir. Toby, il dit, voilà, je me marie avec cette fille d'Israël, non pas pour satisfaire mes propres passions, mais pour fonder un foyer, etc. Je vous renvoie à la parole de Toby, c'est très beau. Au fond, de dire que le fait de s'unir n'est pas simplement pour satisfaire des pulsions, c'est le lieu du don de la personne et de l'accueil du don. Donc on rentre dans une logique de don. De ce point de vue-là, il est intéressant de voir d'abord comment nous-mêmes aussi, de remettre peut-être dans la miséricorde du Seigneur, notre rapport à la sexualité qui n'a pas été dans l'ordre du don. Et je pense par exemple aux actes de masturbation. Les actes de masturbation, bon, qui, au moment de l'adolescence, etc., peuvent bon, arriver, etc., et puis même plus adultes, bon. En quoi ça blesse aussi quelque part notre corps? Ça blesse notre corps parce que ça ne le fait pas rentrer dans une logique de don. On utilise une source de plaisir qui est en nous, évidemment, la sexualité c'est une source de plaisir, et le plaisir il est ni bon ni mauvais. Pas question de bon et de mauvais. Est-ce que ce plaisir-là je l'oriente au don vers l'autre, ou est-ce que ce plaisir-là j'en fais quelque chose d'égoïste? Et on peut être égoïste à deux. Donc ce n'est pas la question. Donc on voit bien que dans notre cœur, c'est important de voir dans notre cœur où est-ce qu'on en est. Je parle de la question donc de la masturbation parce que c'est parfois quelque chose qui, je l'ai vu en tout cas dans l'accompagnement d'un certain nombre de couples, peut parfois poursuivre, même une fois marié, l'un ou l'autre. Plus souvent le garçon que la fille, il faut dire, mais ça peut exister dans les deux cas. Et je me souviens comme ça d'un cas où j'ai eu une jeune fille comme ça qui me dit, jeune femme, jeune mariée, voilà, se réveille en pleine nuit pour aller aux toilettes, jusque-là rien de particulier, si ce n'est qu'elle s'est couchée avec son mari, elle se relève, son mari n'était pas là. Bon. Elle dit, il est allé prendre papa de l'eau, elle se lève, voilà, elle voit de la lumière dans le salon. Et elle le voit à côté de l'ordi. Et l'ordi est positionné de telle manière que, au fond, on voit la personne qui est à l'ordi et de dos, et donc quand on rentre par la porte, on voit l'écran. Et donc elle voit qu'il est en train de mater du porno, quoi. Et puis les mouvements de son corps ne posent aucune erreur d'interprétation. Il n'était pas en train de prier le chapelet, si vous voulez ce que je veux dire. Non, soyons clairs. Donc, vous voyez, des choses comme ça. Alors, j'ai trouvé quelque chose sur la question de la pauvreté. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement. Et je pense que c'est très important. C'est souvent le signe d'une blessure et d'une souffrance. Et si vous-même, dans votre couple, personnellement, vous êtes confronté à ça, il ne s'agit pas de montrer du doigt. Je ne suis pas là pour ça. Et Jésus, encore moins. Il s'agit de dire... Comment est-ce qu'on peut... Vous voyez, vous êtes, comme jeune marié, vous êtes confronté à ça. Alors, j'ai trouvé un article, hein, je vous donne les références, sur le site du point.fr, d'un certain Ludovic Greiling, G-R-E-I-L-I-N-G, Greiling, du 8 janvier 2014. Je crois qu'il est toujours en ligne, qui a tout sur la pornographie, qui est vraiment très très bien. Il dit la chose suivante. La cascade d'images sexuelles et les fantasmes qu'elles font naître chez l'homme ne sont pourtant pas anodins. L'impact sur le ressenti des femmes non plus. Ainsi, psychothérapeutes et sexologues expliquent que la plupart des hommes qui viennent les consulter ont été surprises par leurs conjointes, lesquelles les insistent alors à aller voir un spécialiste. Quand une femme découvre que son homme vit sa sexualité ailleurs, elle se sent trahie. car son conjoint prend du plaisir avec quelqu'un d'autre. Mais elle culpabilise également, car elle pense ne pas répondre aux désirs de l'autre, relève Michel Desroseaux. L'homme aussi se sent coupable, car la consommation de pornographie peut produire un dysfonctionnement important dans le couple. La pornographie dépasserait donc largement le rôle d'excitant dans la recherche naturelle du plaisir du couple, voire jouerait un sens inverse, c'est-à-dire jouerait un sens inverse contre le couple. Donc c'est intéressant. Bon, en tout cas, je vous invite à aller voir ce texte-là. Je le laisserai là sur la table tout à l'heure. Juste pour vous dire que donc le corps, quand on voit que Jean-Paul II invite un corps à se donner et que la logique au fond de l'incarnation c'est une logique de don et d'accueil du don, et que bon, parfois, on est plutôt dans la consommation et dans un certain égoïsme au fond. Mais surtout quand on est marié, si ça vous arrive, si vous surprenez votre conjoint ou dans une situation, c'est pas à peine de montrer du doigt. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait à deux pour s'en sortir? Si tu as de la difficulté avec ça, moi je veux être à tes côtés. C'est ça aimer la personne. On parlait ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire aimer la personne? C'est ça aussi. Tu as peut-être une pratique comme ça. Qu'est-ce que je fais pour être pour te soutenir et pour nous soutenir aussi de ce point de vue-là et avancer, et que ce soit ça ou autre chose, d'autres difficultés sexuelles, que ce soit aussi des pannes sexuelles, hein, parce qu'il peut y avoir aussi un nombre de difficultés. Je me souviens, cette jeune femme aussi, son mari n'arrivait pas à avoir d'érection pendant X temps, préoccupé par son travail, préoccupé par des tas de choses, etc. Bon, seule jeune femme, sentait vraiment une certaine souffrance aussi. Je dis ça parce que c'est bien de pouvoir mettre des mots là-dessus. La difficulté des problèmes de sexe, c'est qu'il y a une forme d'omerta. C'est-à-dire que, avec qui vous allez en parler? Avec votre copine? Avec votre mère? C'est un peu compliqué, non? Avec le Seigneur dans la prière, parfois dans les larmes, c'est possible, dans la prière. Avec qui en parler? Et donc, du coup, bien souvent, il y a une forme de solitude, qui est une forme de souffrance aussi. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement. On est dire, le corps manifeste à l'extérieur ce que je porte à l'intérieur. Le corps, c'est ça. Et Jean-Paul II ira plus loin en disant... Le corps rend visible l'invisible. C'est-à-dire que il rend visible l'invisible, et il parle de deux choses. Premièrement, dans le mystère d'un Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Donc, l'amour invisible de Dieu le Père se rend visible en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et il dit, il se rend visible aussi cet amour dans l'union intime des époux. Donc c'est, encore une fois, la manière, le rapport que j'ai avec mon corps, c'est aussi le rapport que j'ai avec moi-même. Avec moi-même, et donc aussi tout ce qui peut être lié au complexe lié au corps. Encore une fois, de petit, de gros, de ceci, de cela, je me fais des tas d'idées. On peut poser la question il n'y a pas très longtemps, comment savoir si on est un couple normal au plan sexuel? Moi, j'en sais rien. Non, mais la question n'est pas comme si, combien de fois il faut s'unir sexuellement par jour, par semaine, par mois, j'en sais rien. Là, ce que je sais, c'est de ne pas laisser l'autre seul avec son désir, parce que c'est le laisser aussi dans une fragilité. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est bien de nous-mêmes aussi, de dire que les propres blessures qu'on peut avoir par rapport à notre corps, je ne parle pas d'abus, mais parfois des abus sexuels, des personnes qui arrivent dans le mariage avec, en ayant été abusées dans leur enfance ou leur adolescence, des blessures qui viennent des expériences qu'on a pu faire, adolescents ou jeunes, ou expériences hétérosexuelles, expériences homosexuelles. On dit, mais nous, on n'est pas concernés parce que on se marie, etc., à l'église. Mais il y a pu avoir, pour certains, j'ai encore eu un exemple il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous a fait tous tomber de l'armoire, d'une femme comme ça, qui a laissé son mari, mère de 5 enfants, 4 au plus, etc., Et puis, bon, puis chez les cathos, l'homosexualité, c'est pas trop, trop bien vu. Donc, on fait un peu le système, si tu veux, de la cocotte-minute. Cocotte-minute, on garde le bouchon. Tu vois, et ça pendant 25 ans. Et du coup, à un moment donné, elle a commencé un travail sur elle-même. Et cette femme-là a découvert, bah, elle a quitté son mari, ses 5 enfants, pour se mettre avec une dame. Bon, et on dit, ouais, parce qu'elle n'avait peut-être pas voulu non plus entendre son homosexualité avant. Et donc, du coup, je trouve que c'est, de ce point de vue-là, Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, le corps jamais. Ça, une manière ou d'une autre, il y a quelque chose dans le corps qui va rejaillir de notre propre vie psychologique et de notre propre vie spirituelle aussi. Donc c'est intéressant de prendre conscience de ça et de prendre conscience que au fond cet amour conjugal est constitutif d'une donation totale, dit Jean-Paul II. Le corps de chacun des époux éprouve leur manière de se donner. Le corps de l'homme par l'extériorité des organes sexuels montre qu'il est capable appelé à habiter le corps de la femme. Le corps de la femme marqué par l'intériorité des organes montre sa capacité d'accueil, d'adaptation et de souplesse. Donc voilà, je crois que c'est intéressant mais en même temps de dire aussi, peut-être de montrer du doigt, pas montrer, mais de prendre conscience, je pense par exemple à d'autres cas qui me viennent à l'esprit. Une personne, un garçon, élevé dans un milieu traditionnaliste. Et on lui dit, touche pas à ton petit robinet, sinon tu iras en enfer. Alors, il ne touche pas son petit robinet s'il veut avoir un enfer, donc c'est peut-être pas bien. Donc, il passe adolescence, il touche pas son robinet. Il passe, il touche pas son robinet. Il se marie. Bon, il se marie. Petite difficulté. Alors, il a une érection, mais il n'arrive pas à éjaculer. Il n'arrive pas. C'est-à-dire, dans sa. Ah, il va consulter. Écoutez, monsieur, je suis désolé. Vous êtes tout à fait normal, vos organes sont normalement constitués. Simplement, n'oublions pas que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Et donc, il a fait tout un travail sur lui-même, parce que quelque part, il s'interdisait à lui-même. Hein, ce plaisir, parce que sinon, c'est mal, tu vas en enfer. Donc, ce plaisir que provoque l'éjaculation chez l'homme, évidemment, c'est il se l'interdisait à lui-même. Je me souviens d'un autre cas, d'une jeune femme, cette fois-ci, mais qui était mais plus que pudique. Alors là, c'est même plus de la pudeur, là, ça c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est, alors, qu'elle ne voulait pas se montrer nue face à son mari, s'entend. Hein, donc, Or, on va le voir tout de suite, comment vient le désir chez l'homme? C'est en voyant sa femme nue. Alors, du coup, il fallait fermer les volets, tirer les rideaux, éteindre les lampadaires, fermer les trucs de nuit, là, sur voilà, noir complet. Alors, le mec était comme ça. Il se retrouve les doigts de pied dans les narines, il dit non, c'est pas. Il devait pas voir. En même temps, s'il faut venir avec son GPS, dans 100 mètres, vous êtes arrivé, ça va être un peu compliqué de se dire avec. Si on peut simplifier un petit peu la tâche, bon, on rit un peu pour un peu se détendre aussi, c'est un peu compliqué non mais. Et il a fallu. Vous voyez, il faut parfois de la. Là encore, il y a des tas de fantasmes, des tas de tout, mais c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Si dans le langage biblique, l'union intime des époux se traduit par le verbe connaître, et quand dans l'Annonciation, la Vierge Marie dit, face à l'Annonciation de l'ange, qu'elle sera la mère du Sauveur, je ne connais pas d'homme, c'est pas qu'elle connaissait pas d'homme, elle connaissait son père, elle connaissait les voisins, c'est pas dans le terme où nous on l'emploie, je n'ai pas eu de relation intime avec des hommes, c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi que, au fond, d'une manière ou d'une autre, la relation intime demande une connaissance, un travail de l'intelligence et de la volonté. C'est pas spontané, ça se fait pas tout seul. On est amené à grandir. Je dis ça aussi pour pas, à la fois pas vous décourager et pas vous, parce que en la matière, on maîtrise relativement peu de choses. Et il nous faut beaucoup de miséricorde aussi avec nous-mêmes et avec l'autre. Je me souviens comme ça d'un couple. Vraiment un couple profondément chrétien, etc. Mais elle avait été victime d'abus. Et du coup, son mari le savait avant le mariage, etc. Mais la difficulté, c'est qu'à chaque pénétration, eh bien, elle souffrait. Elle n'arrivait pas à se disposer, à se rendre profondément accueillante à son époux. Il y avait une tension, et la femme je vous apprendrai bien vite qu'une femme, il vaut mieux avoir une femme détendue qu'une femme tendue en général. Et donc, du coup, elle n'arrivait pas à accueillir son mari. C'était une source de souffrance. Et son mari lui dit, moi, je ne suis pas marié avec Gertrude pour la faire souffrir, c'est pas ça que je veux. Il a fallu toute une éducation, toute une patience aussi des deux, et une confiance, parce que c'est de l'ordre de la confiance. C'est une question spirituelle. Pour savoir qu'elle s'abandonne dans les mains de son époux, puisse se disposer à l'accueillir et en éprouver de la joie. Juste pour vous donner ces exemples, parce que il y a aussi, il y a toute une littérature, il y a toute une manière de voir les choses qui traînent par là, comme si c'était, comme si c'était de l'ordre de la performance. Ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, toi, tu culpabilises, tu dis, bon, ouais, bon, non, maintenant, c'est pas ça. Voilà, certainement, je ne suis pas dans les clous, soit comme garçon, quoi, comme fille, parce que je ne suis pas dans la performance. Et puis, en plus, avec le porno, comme le porno est trafiqué. C'est-à-dire, c'est comme tout film, c'est l'objet d'un montage. Donc, du coup, ce n'est pas la réalité. Donc, la difficulté, c'est que on nous montre comme quelque chose qui n'est pas réel, et on veut le prendre, ou certains en tout cas le prennent comme réel, et donc d'une manière ou d'une autre, se mettre une pression sur l'autre, qui n'a pas lieu d'être. Donc, juste, c'est intéressant de voir cette capacité, justement, c'est un acte humain, l'acte d'union de l'homme et de la femme. C'est un acte humain. C'est ça, Aristote qui en parle. Il en parle, il fait la différence entre deux actes. C'est un petit peu de philosophie. Il fait la différence entre les actes de l'homme et les actes humains. Les actes de l'homme, qu'est-ce qu'il appelle les actes de l'homme? Les actes de l'homme, ce sont des actes qui se réalisent, opérations qui sont en nous, mais sur lesquelles nous n'avons pas prise, comme par exemple l'inspiration, la digestion, reproduction des cellules, battement du cœur, tout ce qui est vital en nous, heureusement, s'il fallait penser à chaque respiration, on deviendrait dingue, je veux dire, et à chaque battement du cœur, on n'en viendrait plus jamais. Donc, c'est ce qu'ils appellent ça les actes de l'homme. Et il appelle les actes humains ceux qui impliquent l'intelligence et la volonté. Et donc, au fond, la relation, je dis ça pourquoi, la relation sexuelle est du côté des actes humains. Ce n'est pas du côté des actes de l'homme. C'est des actes qui impliquent une connaissance de son corps et une connaissance du corps de l'autre, donc une intelligence, et puis aussi une volonté, peut-être une capacité de dépassement de soi. Et de ce point de vue-là, ne croyons pas à une spontanéité, quelque chose, aussi sur les nuits de noces, je pense que la nuit de noces, moi j'en ai jamais vécu, mais la première chose c'est qu'on doit dormir, je suppose, parce qu'on doit être claqué. Parce qu'on a reçu 25 000 invités, etc. Bon, donc c'est là aussi. Évacuons tout ce qui nous parasite, tout ce qui nous pollue, vous voyez, un peu tout ce qui traîne un peu dans l'ambiance, etc., qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est un acte humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un acte qui demande de la connaissance du corps de l'autre, et c'est un acte qui demande aussi une volonté de s'unir à l'autre, et de laisser l'autre s'unir à nous-mêmes. Hein? Donc, en tout cas, je trouve ça. Je ne veux pas détailler davantage, mais de voir au fond que l'union sexuelle, c'est l'engagement de toute la personne, hein, et donc c'est bien cette personne-là que je veux, avec laquelle je veux m'unir. Et c'est là où ça demande parfois un combat. Je ne m'unis pas avec mon épouse en pensant à une pépée de fuego quelconque que j'ai traversée. À la stagiaire qui est venue et qui est super bien, voilà, et puis ensuite, non, non, mais ça demande dans mon cœur que je m'unisse avec cette femme-là, et non pas, et ce mari-là, et non pas Arnold Schwarzenegger, je ne sais pas si vous aimez bien, mademoiselle, avec ses gros muscles, etc. Bon, non, c'est avec cet homme-là. Vous voyez que, comme c'est important de vous rentrer dans une logique d'amour de la personne. De cette personne que vous avez en face de vous, pas d'une autre. Et on peut très bien être infidèle et adultère, Jésus le dit très clairement, en pensée. Hein, Jésus dit, ben, celui que il vous a été dit, hein, celui qui prend la femme d'une autre, etc., est adultère, mais moi je vous dis, vous connaissez ce passage, hein, tout homme qui a désiré une femme dans son cœur est déjà adultère. Bon, alors tous les mecs qui regardent leurs chaussures, parce que grosso modo, voilà, curé en tête. Donc du coup, donc c'est intéressant de se dire que, justement, il y a un véritable combat spirituel pour s'unir déjà au niveau de la santé mentale, au niveau de notre mental, de nous dépolluer éventuellement d'images qui nous polluent, qui nous polluent et qui sont un manque de respect face aux personnes que l'on peut voir sur ces images-là et face à la personne qui va être notre conjoint. C'est un manque de respect aussi. Donc, de ce fait, parce que c'est vrai que, je dis ça, l'union avec toute la personne, c'est important que, en particulier l'homme, il y a une tentation particulière chez l'homme. Comme l'homme, l'excitation chez l'homme vient par son regard, par sa vue, et donc du coup il y a un danger de morceler, de découper la femme en morceaux, que je m'entends par là, c'est dans sa tête, non il ne va pas jouer au boucher de Londres à découper à la scie, voilà, il va, dans sa tête, il va jouir de certaines parties de son épouse, indépendamment de la personne de l'autre. Vous voyez, c'est ça que... Est-ce que c'est vraiment la personne de l'autre que j'aime, ou est-ce que c'est les seins, est-ce que c'est les fesses, est-ce que c'est... Est-ce que c'est la personne dans sa totalité que j'épouse, et avec laquelle je m'unis, ou est-ce que je la morcelle dans ma tête pour en jouir indépendamment d'elle? Au fond, quand vous regardez bien, la pornographie, ben, c'est basé là-dessus, complètement là-dessus. C'est que il n'y a pas de visage. Et moi, je vois parfois des affiches, c'est l'affiche de lingerie féminine, par exemple. C'est intéressant, il n'y a plus de visage. Or, qu'est-ce qui dit le plus la personne, si ce n'est le visage? Donc, c'est vrai que c'est un combat spirituel, c'est un combat intérieur, mais en même temps, c'est un combat qui nous invite à nous donner et à nous... voilà. Alors, quelles sont les différentes étapes de la relation sexuelle? Alors, je fais cet enseignement-ci parce que, au bout de plus de 10 ans d'accompagnement des couples, je me suis quand même aperçu qu'il y avait une légère difficulté et une certaine méconnaissance aussi. Soit une méconnaissance due à quelque chose, voilà, une manière de concevoir la sexualité, mais pas dans le plan de Dieu, pas dans le don des personnes, hein, mais dans un égoïsme. Et puis une certaine méconnaissance au niveau de vos familles. Je ne sais pas, dans vos familles, comment est-ce qu'on vous a parlé de la sexualité? Certaines familles, on en parle un peu, mais beaucoup de familles, on n'en parle pas. Parce que ça reste encore un sujet un peu... Parce que je pense que les parents n'ont pas forcément... Les mots aussi pour dire les choses. C'est intéressant de voir les étapes de la relation sexuelle. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'éveil du désir, hein, ou appelé aussi préliminaire. Mais j'aime à penser que les préliminaires sont bien avant de se retrouver ensemble dans un même lit. Qu'est-ce que ça veut dire préliminaire? C'est-à-dire que déjà, la femme en particulier, autant l'homme, grosso modo, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton pour que ça démarre, la femme, non, il y a besoin d'un climat, vous voyez, d'un contexte de confiance. D'un contexte de confiance, d'un contexte de paix. Il est impossible pour une femme de se donner dans l'amour après une engueulade. C'est juste impossible. Ou alors c'est du viol, c'est autre chose, mais on ne parle pas de l'amour. Le viol à l'intérieur du mariage fait partie quand même des difficultés et des violences féminines, à l'intérieur du mariage. Donc ça, je pense aussi, il faut en être conscient. La question, alors c'est intéressant, autant l'homme, c'est par la vue qu'il va désirer son épouse, autant la femme, par la vue, mais aussi par l'ouïe. C'est intéressant de voir comment, au fond, c'est important de se parler, on n'est pas obligé que de grogner, quoi, à l'intérieur des relations intimes, hein, comme on peut voir, voilà, mais c'est de vraiment de. Ah, c'est un lieu de célébration, c'est ça que je veux dire. Vous célébrez la parole que vous vous êtes donnée. Et moi, quand je dis la messe, j'aime bien prendre mon temps. Et moi, je vous conseille de prendre votre temps. Vous célébrez votre union, votre parole. Hein? Et c'est pas comme disait Chirac, qui n'est pas un père de l'Église, comme vous le savez, 10 minutes douche comprise. Donc... Donc ça c'est là, ça c'est 5 minutes douche comprise, hein, tu vois. Là on n'est pas dans la célébration, là. Là, on est dans les actes de l'homme à mon avis, c'est voir sa frise animale, mais bon ben ça nous mettons tout dans la miséricorde. Bien. Donc du coup voilà vous et donc du coup c'est aussi par l'ouïe. Et de fait, donc le fait d'avoir ce préliminaire, c'est un contexte aussi de confiance, un contexte d'abandon, un contexte de confiance. Pourquoi ? En particulier chez l'épouse, la manière dont elle sera regardée compte beaucoup pour elle. Est-ce qu'elle sera regardée ? Et elle perçoit très vite, est-ce que c'est un regard de concupiscence, de jouissance, d'égoïsme qui se porte sur moi ? Ou est-ce un regard d'amour de ce que je suis, de la totalité de ma personne. Et de ce point de vue-là, du coup, il y a tout. Donc cet éveil du désir demande une vraie connaissance de soi à travers donc les zones qu'on appelle érogènes. Les zones érogènes, c'est-à-dire hommes et femmes, on a des zones érogènes différentes. Les hommes ont des zones érogènes assez limitées, bon, évidemment le pénis, l'intérieur des cuisses, mais grosso modo, ben, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'imagination. Les femmes, c'est beaucoup plus étendu. Les femmes, ça va évidemment la poitrine, la zone pelvienne, l'intérieur des cuisses, semble-t-il le lobe des oreilles, ça je peux pas vous dire, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, du coup, d'où c'est important que vous, je dis ça, que vous, quand je dis ça, il n'y a rien de sale, hein, que vous guidiez aussi, mesdemoiselles et mesdames, dans un avenir plus ou moins proche, que vous guidiez votre mari, votre époux, vous lui disiez qu'est-ce qui vous dispose aussi, qui est un vrai, vous dispose à la fois vous détendre et avoir une vraie joie de vous unir à lui. Donc ça demande aussi, dans votre corps, une connaissance, un dialogue. Il y a telle caresse qui me gêne. Il y a telle attitude qui me gêne. Ça, je crois que, dans cette justement, je regardais un autre article, dans ce même article, justement, du point.fr, parmi les préliminaires, maintenant, pratiquement, ce qu'on appelle la fellation est devenue pratiquement une obligation, du coup, parmi la génération moderne, ce qu'on appelle la fellation, c'est prendre ce qu'on appelle les caresses bucogénitales, de façon plus technique. Est-ce un hasard si le nombre de spécialistes de troubles sexuels a explosé? L'environnement médiatique joue beaucoup. Ces 20 dernières années, cinéma, magazine ont popularisé à outrance la pratique des préliminaires, qui désigne essentiellement la fellation, laquelle devient presque obligatoire pour la nouvelle génération. Et tandis que les éditeurs et les distributeurs grand public font une mercatique intense pour vendre romans érotiques et jouets sexuels, oui, les jouets sexuels, j'ai été me renseigner, mais c'est pas dans un usage personnel, je veux dire, bon, mais j'ai été me renseigner. Chiffre d'affaires, je tapais chiffre d'affaires, oui, c'est quand même très sage. Au niveau mondial, 22 milliards de chiffre d'affaires de jouets sexuels. Qu'est-ce qu'on appelle jouet sexuel ? Vibromasseur, lingerie. Oui, dès que l'autre a prêté attention, est dans une exigence d'excitation, de mise en scène, de l'acte sexuel pour satisfaire justement sa propre excitation, là, il faut tout de suite allumer les warnings. Parce que ça veut dire à l'intérieur de lui-même, on a fait le lien entre l'âme et le corps, à l'intérieur de lui-même, ça veut dire aussi quelque chose qui n'est pas en place. Donc quelque chose qui est peut-être à travailler, peut-être de l'ordre de la blessure, peut-être de l'ordre de... Je me souviens comme ça, cet ami, il a eu bien de la difficulté à mettre en place une vie sexuelle dans son couple, parce que c'était ses parents qui lui donnaient des revues porno. Comme ça, il ne sera pas homo. Ça a une logique qui m'échappe, parce que ce n'est pas du tout ça qui fait qu'on n'est pas homo ou qu'on l'est, du reste. Vous voyez, mais du coup, il me dit, quand vous avez personne qui a du vécu en face de vous, il me dit, bon, j'ai vraiment demandé une guérison au Seigneur, vraiment de ces images qui m'ont pollué l'esprit, et pour avoir un regard pur face à ma femme. Et il a maintenant 40 et quelques années, il dit, je sens que ça revient. Que ça revient m'habiter, ça revient me... Donc vous voyez la manière aussi de... en termes de tout ce qui est roman érotique, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez 50 nuances de Grey. Hein, 50 nuances de Grey, qui est un roman érotique qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. On appelle ça porno pour maman. Bon. Ok, ça en dit déjà beaucoup. Donc, du coup, c'est des par millions. Hein, alors justement, j'ai trouvé un truc là. Attendez, hop là. J'ai trouvé quelque chose sur les sex toys. Là. Non, parce qu'il y avait une. Il y avait une. Comment on appelle ça? Une. Alors, c'est lefigaro.fr. Donc, le Figaro, c'est tout ce qu'il y a de plus, voilà. Août 2012. Jeudi. Une distribution gratuite de sextoys a viré à la foire d'empoigne à Manhattan, au point que la mairie de New York a dû annuler l'opération pour trouble à l'ordre public. Alors, moi, j'ai dit, je vais faire la même chose, mais avec les Bibles. Je suis allé à la Concorde pour distribuer, mais bon, j'ai pas été malheureusement arrêté pour trouble à l'ordre public, si vous voyez ce que je veux dire. Juste pour vous dire que vous pensez que ça concerne, c'est des trucs, bon non, vous allez trop loin, père, là, ça nous concerne absolument pas, ou c'est des gens complètement malades dans leur tête, etc. Trouble à l'ordre public. Je me souviens, tiens... à propos justement de désir d'excitation, etc. J'ai dû donc suivre de la kiné pendant plusieurs mois. Et bon, quand vous voyez la kiné, une kiné, c'était une femme, une fois par semaine pendant un an, forcément, vous parlez, etc. J'étais prêtre et tout, bon. Et puis elle me dit, je suis divorcé. Ah bon, je dis, vous êtes divorcé, bon, pas de commentaire. Et elle m'explique pourquoi. Elle explique que, au fond, son mari l'obligeait à l'échangisme. L'échangisme, c'est-à-dire à plusieurs, ce qu'on appelle partie fine. Moi, de mon temps, on appelait ça autrement. Mais on appelle ça partie fine. Mais quand vous voyez le mari, mais vous voyez, c'est pas des gens marginaux. C'est pas des gens. C'est des gens insérés dans la société. C'est des personnes. C'est juste qu'au plan sexuel, ils sont dérangés. C'est juste qu'ils ont un désir et des demandes par rapport à leur partenaire qui ne sont absolument pas légitimes. Alors, ça veut dire quoi, ça? Évidemment, elle dit, moi, c'est hors de question. Non, ça non. Alors, avec la difficulté, parce qu'il les organisait chez lui, du coup, sa fille... il y a eu l'alternance de la garde de sa fille qui avait à l'époque 12 ans. Il dit, c'est clair que ma fille, ni de près ni de loin, elle n'a même pas connaissance de ça. Sinon, moi, je t'enlève la charge parentale, la responsabilité parentale. Du coup, elle est allée chez la grand-mère, etc., pour un peu apaiser le truc. Mais non, pour vous dire que ça peut aller très loin. C'est de l'ordre de la pathologie, parfois. Maintenant, c'est de l'ordre aussi de la souffrance. Moi, je vois ça pas mal de l'ordre de la souffrance, parce que c'est de l'ordre aussi de quelque chose d'un... alors, ça peut être de l'ordre du vice, oui, certainement, mais le vice, au fond, derrière le péché, il y a toujours un désir de bonheur. Et donc, du coup, c'est intéressant de se dire quel désir de bonheur il y a quelque part caché là et qui est mal, évidemment, mal mis et mal... ensuite, la première... Donc, éveil du désir. Ensuite... L'état de désir, là où l'un et l'autre sont capables de s'unir. Alors évidemment, l'érection chez l'homme, hein, et puis chez la femme, ça se traduit par à la fois le gonflement de la zone pelvienne, l'ouverture du vagin, la lubrification du vagin, le durcissement de la poitrine, et donc, qui va être le signe chez elle qu'elle est en état de désir de s'unir avec son époux. Ça veut dire aussi que l'époux lui-même soit ses maîtres de son érection. Une des difficultés pour les femmes à arriver à un orgasme, c'est-à-dire une joie dans le don, c'est ça l'orgasme, la joie dans le don à l'autre, hein, eh bien, c'est le fait, ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. C'est-à-dire que le mari, l'homme n'a pas une suffisante soit confiance en lui, soit une suffisante maîtrise, qui permet de donner à son épouse une joie dans l'union intime. Hein, donc c'est intéressant. Ensuite, une fois que l'épouse, justement, il y a quelque part, ça c'est intéressant, il y a quand même au début de toute relation intime, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans le sens, il y en a un qui a plus de demandes que l'autre. Du coup, il y en a un qui attend et l'autre qui le rejoint. Et je trouve que c'est toute une pédagogie aussi, au-delà du corps. Le corps nous enseigne une pédagogie dans la manière d'être en général, dans notre comportement, de certaine patience face à l'autre. De voir que l'autre ne va peut-être pas au même rythme que nous, dans le désir sexuel, mais aussi dans l'organisation de telles choses, dans le, etc., etc. Le corps manifeste l'intérieur, le corps dit la personne. Donc, en tout cas, je vois une certaine pédagogie dans la manière de voir du corps et justement dans cette attente. Une fois donc elle est en état d'accueil, donc de dire à son mari, à son époux, de venir en elle parce qu'elle se sent prête et que cela va lui à la fois lui donner de la joie et que elle va être heureuse de l'accueillir comme elle est heureuse d'accueillir son don et son amour, encore fait toujours le lien entre la personne et le corps. Hein, alors, là vient la question des positions. Alors, l'Église a-t-elle des positions sur les positions? Alors, il y a une position. Ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas du tout? Non, mais alors, ça, c'est des choses. Ça, c'est un truc personnel. Vous ne le trouverez pas sur le site levatican.fr. Hein, vous le dites tout de suite. C'est juste quand on met ce que nous donne Jean-Paul II de communion des personnes. Le corps comme signe de toute la personne et l'intimité du corps comme le don et l'accueil du don. Du coup, je fais un peu comme un effet domino, mais c'est plus un travail personnel, c'est pas... on peut très bien ne pas être d'accord tout en restant catholique, apostolique et romain, je veux dire. Bon, la question des positions. Alors, il y a une position, c'est vrai, on se dit, est-ce que l'Église a une position sur les positions? Alors, il y a une position qui a à voir avec une activité de l'Église. Missionnaire. D'après vous, pourquoi? Un missionnaire, qu'est-ce que c'est la position missionnaire? Bon, papa-maman, grosso modo. Hein, l'homme couché sur son épouse. Bon. Pourquoi, d'après vous, on appelle ça missionnaire? Ça fait mal. Pourquoi on appelle ça... Voilà. Les missionnaires, ça s'oppose à quelle autre position? Parce que c'est quand même étonnant d'appeler missionnaire, d'autant plus que beaucoup, sauf les missionnaires protestants catholiques, mais beaucoup n'étaient pas non plus des grands experts en la matière, quoi. Je veux dire, ma manière de voir les choses, ça, quand les missionnaires, tant catholiques que protestants, essentiellement en Afrique, sont allés évangéliser, ils ont dit, nous n'avons pas la même manière de nous unir que les animaux. Et donc, nous avons une manière de nous unir Parce que la communion des personnes, c'est la communion des visages. Et la communion des regards. Sans attraper un torticolis de préférence. Donc, je pense que c'est intéressant de se dire que il y a une manière aussi humaine, et je veux dire quelque part chrétienne, de s'unir. Et que dans votre union, vos regards, parce que c'est dans le regard que se dit la personne, vos regards se croisent toujours. On n'est pas à la manière des animaux. Donc là, là encore une fois, que ce soit l'homme sur la femme sur l'homme, peu importe, est-ce que vraiment, parce que c'est dans le regard que je dis aussi mon amour. Parce que c'est dans le regard, et dans ma parole, dans mon visage, que je dirais la joie de l'union. Oui ?
J'ai justement une question par rapport à ça, mais par rapport à ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous nous expliquez comment on aime une personne dans l'acte sexuel, c'est parce que c'est très, très clair, très logique, mais est-ce qu'on ne renonce pas à une partie de notre nature en n'ayant qu'un acte sexuel entre personnes, puisqu'on est aussi quelque part des animaux, et on a aussi, on pourrait aussi avoir une façon de s'unir animal, et on pourrait être un mélange des deux, parce qu'on a une nature qui est à la fois animale et enfin, à la fois très terrestre et très divine.
Oui, alors c'est ce que la définition que donne à Aristote de l'homme, c'est animal raisonnable. Donc c'est vrai qu'on a une partie animale en nous. Maintenant, le fait de dire que cette partie animale n'est pas ce qui prévaut, j'allais dire même sans la dimension spirituelle. L'intelligence, on a dit que la relation intime demande l'intelligence et la volonté, mais ça c'est propre à l'homme. Vous avez, c'est que, justement, c'est un acte humain, c'est pas un acte de l'homme. Alors que l'animal est guidé par l'instinct. L'animal, quelque part, n'a pas de vice, il est guidé par l'instinct. Il y a la période où il voit que la femelle est disponible, etc. C'est l'instinct, point barre. Nous, c'est pas ça. Et donc, et la difficulté de dire, mais pourquoi au fond, oui, alors, je suis allé sur auféminin.com. Et donc, auféminin.com, je suis allé voir, alors, de dire, c'est une sorte de site, je sais pas, vous connaissez, bon, alors, comment, c'était le thème, c'était comment renouveler ces relations intimes. Alors, je me suis dit, tiens, ils vont parler peut-être de la Trinité, ils vont parler de un peu d'une logique de don, etc. Et on voit, justement, non, on voit, avez-vous essayé toutes les pièces de votre appartement? Qu'est-ce qu'il raconte là? On va voir le lieu tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un aspect animal, c'est vrai qu'il y a une jouissance bien plein plus grande qu'on pourrait avoir, c'est vrai, en mettant en scène. Mais est-ce que ça, d'une manière ou d'une autre, vraiment, est-ce que ça ne va pas être la femme qui va en faire les frais? À 80%, oui. Qui va devoir se plier. Et moi, pour être prêtre, j'ai des confessions d'épouse. Voilà, pour faire que le mari, entre guillemets, n'aille pas voir ailleurs, eh bien, elle se plie à des exigences qui sont inadmissibles. Ah oui, il y a le côté animal, mais est-ce que c'est ça qui... Est-ce que la jouissance maximum va être la dignité maximum? Certainement pas. C'est vrai qu'on a une capacité de jouissance plus grande. Je me rappelle comme ça un homme qui avait commis l'adultère, etc., il me dit, je ne pensais pas être capable de donner autant de plaisir à une femme. Et c'est vrai que quand on est responsable de quelqu'un, comme on est responsable de quelqu'un dans le mariage, il y a des choses, quelque part, qu'on certains dit parce qu'on estime que c'est un manque de respect. Hein, j'ai parlé du sexe oral, je peux parler du sexe anal, voilà, il y a 1000 possibilités de jouissance. Mais est-ce que ça va aider à la communion ou pas? Ou est-ce que ça va aider à l'asservissement bien souvent de l'un sur l'autre? Et donc, oui, il y a quelque chose d'animal, mais ce n'est pas cette partie. Ce qui est animal aussi, quelqu'un me saoule, ben voilà, je le zigouille, c'est aussi animal.
Est-ce que le bon critère, c'est est-ce que c'est animal ou pas? Ou est-ce que c'est plutôt la question de dignité? Parce qu'il peut y avoir des, une personne par amour, par exemple, qui n'est pas face-to-face,
oui.
Et pourtant elle est digne. Les deux et fait dans un certain respect. Est-ce que le bon critère, c'est pas plutôt ça, plutôt que de se dire, est-ce que c'est
Ben, c'est-à-dire, face to face, c'est vrai, l'avantage, c'est qu'au moins, on voit l'autre, on peut se parler, le reste, on a. Bon, encore une fois, c'est un avis personnel. Hein. Bon, ben, et maintenant, et c'est pas parce que l'autre est. On dit l'autre est consentant, parce qu'on me dit, oui, mais qu'est-ce que vous avez à dire là-dedans, quand on est en train de nous culpabiliser, etc. En plus, un moine, il n'y connaît rien, et compagnie. Bon. Bon. Mais, moi, ma question est de dire, est-ce qu'au fond. Ça va vous aider. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de domination de l'homme surtout de l'homme sur la femme, et une sorte d'asservissement de la femme. Moi, c'est plutôt du côté. Et la femme qui n'osera pas dire non. Bon, pour avoir des confessions de femmes, je vous dis, elle n'ose pas dire non. Donc elle se plie. Et donc on dit, c'est oui, c'est entre adultes consentants, jusqu'à un certain moment. Parce que la femme sent qu'il y a des gestes, il y a des pratiques, il y a des qui ne sont pas conformes quelque part à la propre dignité du corps. Donc voilà, je vous en parle, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, vous pourrez en parler entre vous aussi pour faire le point, en tout cas. Bon. Ensuite, donc ça veut dire une maîtrise de soi aussi, je parlais de la question de la maîtrise de soi, pour permettre ce qu'on appelle ensuite l'autre étape, l'orgasme qui est un spasme hein, chez l'épouse. Une éjaculation chez l'homme, qui est le signe aussi du don de la joie d'être, d'accueillir et de se donner. Moi, je vois ça aussi sous cet angle-là, la joie d'accueillir et de se donner, hein, de voir au fond que c'est d'une certaine manière une forme d'extase aussi, de sortie de soi-même. Je vais me donner à l'autre et donc j'ai une joie et je me. Ça, et donc, c'est important aussi de ressentir cette joie. Hein, c'est vrai que toujours ça me taquine, je veux dire, oui, ça m'interroge, quand je vois que chez les femmes, il n'y a pas trop de désir sexuel, ou de voilà, n'arrive pas à l'orgasme, ou un désintérêt pour l'union intime. Souvent, et c'est là aussi je vous mets en garde, mesdemoiselles, on voit une prédominance de l'aspect maternel ou spirituel sur la dimension d'épouse. Et ça, je pense qu'il faut faire aussi attention de ce côté-là. Et du coup, je me dis, je vois chez certaines femmes un désintérêt. Est-ce qu'elles sont. Parce que c'est là où. Ils ne feront qu'une seule chair. C'est vraiment cette unité des organes qui fait vraiment une seule chair. Ils sont un comme Dieu un. Leur unité de corps et donc d'âme, parce que le corps et l'âme se rejoignent, est complète. Hein? Donc c'est, je trouve, en tout cas, de ce point de vue-là, il faudra peut-être du temps, il faut peut-être de la confiance, certainement, il faut, mais que, en tout cas, vous ne renonciez pas à la joie sexuelle. Et j'allais dire, quel que soit l'âge. Alors c'est vrai que là, on a un gériatre parmi nous, donc je crois que vers les 80 ans, ça peut à peu près se calmer, comme dirait l'autre, ce n'est pas. Nous qui quittons le péché, c'est le péché qui nous quitte. Mais en tout cas, je me souviens de cette femme d'une soixantaine d'années qui me dit, bah, pour des raisons médicales, voilà, mon mari, bah, on n'a plus d'union. On n'a plus d'union avec mon mari. Et elle me dit, je sens qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Je sens qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Que soit toujours présent le dialogue des corps. Parce que le dialogue des corps, c'est le dialogue des personnes. Et c'est le dialogue des cœurs. Voyez ça comme une respiration, vous voyez, peut-être je m'exprime mal, mais voyez ça comme une respiration, comme une continuité, comme un continuum, comme une unité. Voilà, donc l'importance de faire une seule chair, justement. Ce plaisir, ce plaisir manifesté dans l'orgasme, et puis ensuite le repos, la dernière fable, c'est la fable du repos. Il n'est pas rare qu'au bout de 2 minutes, on entende. Parce que la décharge de plaisir et la décharge du corps fait que le corps tout à coup rentre dans une détente, évidemment. Voilà. Et que les époux qui ont célébré leurs paroles, qui l'ont fait chair, se reposent dans les bras l'un de l'autre. Les difficultés par rapport aux. Donc, plusieurs questions. On a parlé de la question de la durée, Moi, je vous l'ai dit, maintenant, c'est à vous, il n'y avait pas de religion là-dessus, je veux dire, c'est à vous de voir, mais en tout cas, ayez du temps disponible. C'est pas pressé, c'est pas à la va-vite, c'est pas à la sauvette, c'est pas bon. La question de la fréquence, ça, c'est une vraie question. Et ça, c'est à vous aussi d'en parler. Veiller à ne pas laisser l'autre, essentiellement l'homme, seul avec son désir sexuel. Ça peut être aussi la femme à certains moments. Parce que c'est mettre l'autre dans une situation de difficulté. Autant c'est important que chacun puisse expérimenter un désir de l'autre, mais autant c'est important d'avoir une certaine régularité dans l'union intime des époux. Et puis, en dernier point, la question du lieu. La question du lieu, là encore, il ne s'agit pas d'essayer toutes les pièces de l'appartement, parce que ça nous fantasme sur tel truc, sous la douche, ou je ne sais pas quoi, voilà. Je crois que, en tout cas, bon, je ne sais pas dans votre famille, mais dans ma famille, la chambre des parents était comme sanctuarisée. Enfant, en tout cas, on rentrait pas, je sais pas chez vous, mais on rentrait pas dans la chambre des parents. Et je trouve aussi de quelque part de faire de cette chambre matrimoniale une chambre qui soit belle, même si elle est petite, parce que voilà, vous êtes dans un 15 mètres carrés à Paris, au cinquième étage, mais ça n'empêche pas que cette chambre-là soit belle, que cette chambre-là soit, ce soit le lieu de la célébration, ce soit un lieu d'intimité, en tout cas, évidemment, que ce soit un lieu où on soit vu de personne, ça me paraît l'évidence, mais c'est toujours bien de rappeler les évidences. Et le fait du lieu, en tout cas, du lieu matrimonial, en tout cas habituellement, maintenant il y a des voyages, etc., mais habituellement votre lieu d'union, ce soit quelque part cette chambre matrimoniale qui va être aussi, d'une manière, le sanctuaire de votre amour et qui va être le lieu à la fois où peut-être vous engueulez, le lieu où vous allez vous pardonner, le lieu où vous allez vous unir. Et je trouve, de ce point de vue-là, la chambre matrimoniale est quelque chose auquel il faut prêter une attention particulière. Alors, il y a eu des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
Vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas laisser l'autre avec son désir, mais si, oui, par exemple, l'un des deux
oui,
d'une personne du couple, oui, n'a pas envie à ce moment-là, quelle est l'attitude?
Alors, s'il n'a pas envie... C'est souvent le cas, j'allais dire. Et puis maintenant, avec la contraception, on ne peut pas, même pas prétexter une migraine. Donc du coup, je crois que c'est aussi une question de volonté. Je me rappelle encore cette femme qui me disait, c'est vrai que mon mari a un grand désir de s'unir avec moi, etc. Et moi, peu. Quelque part, je me suis un peu efforcé. Quelque part, c'est quelque chose dans lequel on grandit. C'est quelque chose dans lequel on... je trouve que... il ne s'agit pas de se forcer, je suis d'accord, mais c'est un travail de l'intelligence et de la volonté. Et donc aussi, c'est un acte d'amour que de se rendre disponible et donc de voir un peu comment vous vous débrouillez en couple, etc. Mais on ne peut pas laisser seul... Parce qu'il y a des femmes, je veux dire, grosso modo, elles auraient des enfants et ça leur suffit, quoi. Et puis, toutes pas, mais ça dépend un peu de la libido de chacun. Et la libido, elle est ni bonne ni mauvaise. Ça fait partie de notre psychologie, etc., de nos hormones et compagnie. Mais je pense qu'il y a aussi une manière... arrêtons de croire à la spontanéité aussi dans cette manière. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas spontanément à égalité de désir dans une union intime. Ça, c'est pas vrai. Il y a le fait d'y arriver progressivement. Et de voir à quel point... Et cette femme-là me disait, au fond, maintenant, au début, c'est vrai que ça me gavait, etc. Mais elle me dit, je me suis aperçu que ça me faisait du bien. Je me suis aperçu, même si je n'étais pas en demande, que, au fond, d'avoir une régularité dans l'union avec mon époux, bien, pour moi aussi, c'était bénéfique. Voilà, donc je crois que c'est une partie de la réponse. Maintenant, c'est un peu à vous de ce côté-là à donner la réponse. Je peux vous donner des pistes. Mais en tout cas, ça, n'attendons pas, parce que si juste N'attendons pas d'être tous les deux au même degré pour s'unir. Parce que ça peut arriver, mais ça arrivera une fois de temps en temps. Mais c'est peut-être pas suffisant, quoi. D'autres questions ? Oui ?
On nous dit que dans notre vie, on va sans doute être un peu attiré par d'autres gens.
Oui, certainement, oui.
Comment est-ce qu'on doit réagir ? Est-ce qu'il faut qu'on... on doit se dire que c'est un peu...
Oui. Alors, il est tout à fait normal que vous croisiez des personnes et vous vous disiez, tiens, cet homme, cette femme, ben, elle me plaît. Bon, et peut-être même j'aurais fait ma vie avec lui, avec elle. Là aussi, il n'y a pas l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, ça n'existe pas. Ça, c'est enlevez-vous de ça de votre tête, absolument. Il y a plusieurs personnes avec qui, heureusement, on peut faire une vie commune. Parce que si l'homme de ma vie ou la femme de ma vie se trouvait en Papouasie centrale et que moi, je suis perdu à Knotluzout, ça va être compliqué de se rencontrer, tu vois. Donc, du coup, c'est important de se dire que, d'abord, il y a donc, et puis même dans le cas de veuvage, par exemple, bah, l'Église catholique admet qu'on puisse refaire sa vie avec. Et puis, vous avez, il y a des styles de personnes, il y a des styles d'hommes, il y a des styles de femmes, et vous voyez que à des styles de femmes, des styles d'hommes, avec qui vous auriez pu, voilà, vous sentez attiré vers un autre. En tant que tel, moi, je crois que c'est pas d'abord sentir attiré par son mari ou par sa bonne épouse, c'est là, premièrement. Mais il ne faut pas s'en émouvoir plus que ça. Il faut juste se dire, le mariage, c'est un amour privilégié. C'est un amour privilégié. Alors que dans le célibat consacré, c'est un amour universel. On se donne à tous dans le célibat. Dans le mariage, c'est un amour privilégié. L'autre a besoin de sentir qu'il est votre priorité. Et donc ça veut dire aussi que on peut sentir du désir, surtout en matière professionnelle, parce que dans le milieu professionnel, pour le coup, qui est de plus en plus mixte, eh bien forcément, vous allez forcément croiser des gens avec qui vous auriez pu, voilà, qui vous attirent comme style d'homme, comme style de femme. Moi, ça me choque. Simplement de dire, voilà, je mets une barrière intérieure. Intérieurement, je mets une barrière. Intérieurement, voilà, je ne vais pas favoriser les rencontres avec. Je vais être dans une certaine prudence. Bon, un autre cas là. Un couple vient me voir et puis elle n'a pas pris bien conscience de la question de l'exclusivité. C'est-à-dire que... Non mais vous allez voir comment. Elle a... non mais pas de façon assez naïve, je suppose. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle rencontrait un garçon, elle lui demandait son numéro de portable. Sachant qu'elle était fiancée. Et puis, deux jours après... Elle envoyait un SMS, tiens, t'as l'air sympa, est-ce qu'on peut se prendre une bière ? Ensemble. Le type qui reçoit un SMS, je sais pas, deux jours après, il a rencontré une fille, dans une soirée, dans pas caisse. Et elle dit, mais non, mais c'est pour partager avec lui. Et lui ne pense pas spontanément au Sacré-Cœur, si vous voulez. Donc c'est important de se le dire. Donc, de dire, voilà, et du coup, il dit, ben, j'ai l'impression d'être la cinquième roue du carrosse. Et elle, de fait, elle n'a pas manqué stricto sensu à la fidélité. Elle dit, il ne se passe rien, mais bon, je veux... Non, mais il y a une garde. Je trouve qu'il y a une forme de garde. Il y a une forme de... Il y a des choses, voilà, parce que parce qu'on reste homme et femme avec nos désirs, avec peut-être nos... Ben voilà, c'est vrai qu'on a... Peut-être on passe un moment à vide en couple et qu'il y a un type sympa qui vient, qui te... etc. Bon, et tu te... c'est vite fait. Soyons assez humbles pour pas nous mettre dans des situations qui sont compliquées. Et ça tous, hein, merci d'avoir posé la question, mais ça s'applique absolument à tous. Hein. Soyons assez humbles pour pas nous mettre dans des situations trop compliquées. Où on sait très bien qu'après un pas, on vient un autre, et après un deuxième, un troisième, et on sait où ça va. On le sait, intérieurement. C'est ce qu'on appelle la tentation. C'est dans l'imagination, on fait un pas, un deuxième, un troisième, et on sait que ça va dans le mur. Mais on recherche un plaisir, un bonheur. Et donc du coup, essayez de mettre... Justement, je pose dans les questions que j'écris quand j'accompagne des couples, là, pour j'écris aux témoins... Je dis, est-ce que vous avez vu justement une attitude qui pourrait prêter à confusion dans l'attitude d'un des deux fiancés ? Tolérance zéro en termes de d'attitude ambiguë. Tolérance zéro. Tu sens un type, la drague, c'est fini. Et même se faire tout de suite, il faut recadrer. Vous vous ferez draguer, forcément, hein, avec vos bonnes têtes. Mais je crois que c'est là où est l'amour, l'attachement. Tu parlais de l'attachement à la personne de l'autre. C'est que je mets une garde à mes lèvres, Seigneur, c'est dans le psaume. Je mets une garde, je ne me mets pas dans une situation où. D'autres questions ? Oui.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler la position de l'Église sur la contraception ?
Alors. Ok, alors, ça c'est là après, donc c'est hop, c'est le troisième dans l'ordre. Alors, déjà dans le deuxième, dans l'union des corps, est-ce qu'il y a des questions particulières là-dessus ou bon. Donc troisième étape, c'est la fécondité. C'est vrai qu'il peut y avoir des enfants qui naissent, c'est un peu des effets collatéraux, si j'ose dire. Alors j'ai apporté, si quelqu'un m'a fait la gentillesse, j'ai un carton là-bas avec les livres jaunes, si peut-être quelqu'un peut me l'apporter. Deux cartons carrément. Non, j'ai acheté ça pour vous, si vous vous intéressez aux questions de bioéthique. Alors, je vais pas. Ça va jusqu'à présent, c'est bon, c'est pas trop long. Merci. Alors, j'ai acheté ça. Je me suis dit, si ceux qui sont intéressés, c'est hyper clair, ça me paraît très concis, assez clair. Bon. La question de la contraception. Là aussi, moi, j'en fais pas. J'allais dire un aspect idéologique. Pourquoi, d'après vous, la question de la paternité, de la maternité responsable, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Paternité, maternité responsable. C'est-à-dire que l'Église invite à une certaine responsabilité dans la manière de donner la vie. Tout le monde n'est pas capable d'avoir 6 enfants. Pourquoi ? Non pas parce que les personnes, en termes par exemple économiques, par exemple, même si on constate que souvent les familles les plus pauvres, ce sont souvent les familles les plus nombreuses, mais en termes aussi de fatigue, en termes d'énergie, en termes de beaucoup de choses, voilà, on n'est peut-être pas obligé. Et je ne sais pas si vous vous êtes fixé déjà le nombre d'enfants que vous voulez avoir, mais bon, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une paternité, et en même temps, l'Église invite les époux à une générosité du cœur. C'est-à-dire que à ouvrir, et quand je vous vois, je dis quelle chance auront vos enfants de naître dans votre couple, quand même. Et ça, je pense que c'est une vraie grâce pour eux et comme pour vous aussi. Et maintenant, il y a la question d'une certaine régulation, parce que c'est vrai que, comme on ne peut pas en avoir des quantités industrielles. L'Église, elle part d'un truc, c'est une position, j'allais dire, écologique, c'est-à-dire au naturel. En fait, c'est un green sex. Hein, c'est le green sex, c'est-à-dire, alors c'est marrant parce que tout le monde, l'écologie, etc., il faut faire tout le développement durable, il faut pas. Donc l'Église est contre les OHM, organismes hormonalement modifiés, hein, ou tout dérivé du latex. Et donc, du coup, elle dit, voilà, dans le corps de la femme est donné des temps de fertilité et de non-fertilité. Et donc, en général, c'est une vision qu'on pourrait qualifier de naturaliste. C'est-à-dire, on part du corps. Alors, déjà, est-ce que certains d'entre vous se sont formés, parce que ça demande une formation, aux méthodes naturelles ? Oui, vous êtes formés, certains, aux méthodes naturelles ? En tout cas, sachez que on peut se former aux méthodes naturelles. C'est-à-dire que moi je trouve l'avantage de ces méthodes naturelles justement qui jouent sur les temps de fécondité et de non-fécondité de la femme, je trouve ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que la régulation des naissances est portée par les deux et non pas par un seul. Or, dans quelles que soient les formes de contraception que vous allez utiliser ou que vous utilisez, j'imagine déjà, eh bien, c'est soit l'un, soit l'autre. Deuxièmement, il y a, comme dans méthode naturelle, il y a la naturelle, c'est-à-dire je suis à l'écoute de mon propre corps, je suis à l'écoute du corps et du corps de mon épouse, et j'entre aussi dans une maîtrise de moi-même. Parce que, évidemment, dans les périodes fertiles, eh bien, si nous décidons comme couple de ne pas, nous ne souhaitons pas avoir d'enfant, eh bien, ça veut dire une maîtrise, ça veut dire une abstinence. Donc, quelle est la part aussi de l'abstinence? Est-ce que je suis capable de cette maîtrise? Et puis aussi, un autre aspect que je trouve aussi intéressant, ça sert aussi à avoir des enfants, accessoirement parlant. C'est vrai que la méthode Billings, qui est la méthode la plus connue pour les méthodes de régulation naturelle, c'est vrai qu'ils ont eu 9 enfants, alors c'est peut-être pas forcément la méthode, l'exemple qu'il faut donner le plus, mais ça sert aussi pour des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants, et ça je vais y venir, ça sert pour des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants de justement se positionner au moment favorable. Donc maintenant j'allais dire, aucune méthode n'est parfaite. Aucune méthode n'est parfaite. 60% des avortements en France, il y a 220 000 avortements par an à peu près, 860 000 naissances, 60% sont sous contraception, des femmes qui sont sous contraception. Donc ça veut dire qu'il y a, encore une fois, il n'y a pas de risque zéro, juste pour dire, il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas on dirait, voilà, la méthode parfaite. Alors c'est vrai que comme c'est naturel et que ça ne fait pas marcher l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de recherches faites. Il me semble qu'une difficulté par rapport aux couples qui veulent vivre ce type de méthode, justement, parce qu'on découvre dans le corps aussi le partenaire divin. On dit on est à l'image de Dieu dans notre corps, donc on découvre dans le corps le partenaire divin. Donc il y a aussi une dimension spirituelle. Hein, donc et aussi une dimension d'abandon et de se dire ben voilà, est-ce que je veux tout maîtriser ou est-ce que j'accepte aussi de laisser une part à la confiance et à l'abandon. Maintenant, donc ça, c'est un peu pour les questions de régulation des naissances. Je trouve qu'il y a, bon, de ce point de vue-là, il faudrait peut-être plus de moyens pour les couples qui veulent vivre ça et qui me semblent plus respectueux du corps humain, hein, plus de moyens pour le vivre avec une certaine. Parce que aussi, ce qui empêche la femme d'arriver à une joie dans l'union, c'est la peur de tomber enceinte. Hein, quand il n'y a pas de contraception mise en place, etc. Donc ça, c'est aussi une vraie difficulté. Maintenant, je voudrais parler d'une autre chose, mais rapidement parce que ça leur tourne, et je vais laisser la place à Yann et Priscille pour leur témoignage. J'aimerais parler des questions de la difficulté d'avoir des enfants. Je lisais un article il n'y a pas si longtemps que ça sur la baisse de la concentration du sperme, hein, due à des différents facteurs. Bon, les facteurs sont assez... certainement la pollution, le rythme de vie, etc. Mais sachez que la stérilité masculine est de plus en plus importante. Ça, ne pas confondre avec l'impuissance. L'impuissance, hein, c'est cette incapacité à l'érection. Est-ce que le manque de la fertilité, le manque de la fertilité, cette capacité à donner la vie. Donc, qu'est-ce que vous faites dans une démarche où, comme couple, et malheureusement, parfois, il peut y en avoir, qu'est-ce que vous faites pour... face à un manque de fertilité de l'un ou de l'autre ou des deux. Alors, vous connaissez la position de l'Église en la matière, qui me paraît assez sage. Une certaine méfiance par tout ce qui pourrait couper l'acte intime des époux de la procréation. Et donc la procréation médicalement assistée, par exemple la PMA, coupe ce lien. Et puis, inutile de vous dire que, oubliez toute forme de romantisme, vous rentrez dans un protocole. Quand vous rentrez dans les FIV, ou toutes les formes de procréation médicalement assistée, etc. Vous rentrez dans des protocoles. Ce que je vous invite à faire, et ça, à ne pas rester seul, pardon pour les médecins qui sont dans la salle, mais ne pas rester seul face au corps médical. Parce que vous arrivez comme couple, ayant déjà en souffrance, parce que ça fait peut-être un an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez les autres qui ont fait les baptêmes, vous voyez les poussettes, vous voyez, etc. Et à chaque fois, c'est un coup d'épée dans le cœur. Et donc, du coup, vous arrivez face en consultation, c'est vrai que vous arrivez dans une situation de fragilité. De façon générale, le patient arrive dans la fragilité face à son médecin. Et donc, ne restez pas seul, faites-vous aider. Je pense par rapport à un couple que j'accompagne en ce moment. Lui a dû subir enfant, il a eu un cancer enfant, et il a subi des rayons. Il a fait ce qu'on appelle un spermogramme, c'est l'analyse du sperme, et il s'avère qu'il y a très peu il y a une densité de spermatozoïdes largement insuffisante. Pratiquement, c'est impossible sans l'aide de la médecine. Et donc, il va falloir qu'il fasse, c'est pas la FIV, ce qu'on appelle l'ICSI, c'est-à-dire on introduit à l'intérieur de l'ovocyte, hein, on introduit le spermatozoïde. Donc, un couple très pratiquant, très croyant, pratiquant, ils le savaient avant, ils disent il y a possibilité de ça, voilà, d'une manque de fécondité, de possibilité de stérilité à cause d'une maladie enfantine. Je lui dis, renseignez-vous. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est surtout c'est ce qu'on appelle les embryons surnuméraires. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que pour nous, la dignité humaine commence dès le sein maternel. Et donc le fait d'avoir des embryons surnuméraires, c'est des au congélateur, parce qu'il y a ce qu'on appelle la cryogénisation, c'est-à-dire qu'on met dans l'azote liquide, hein, les embryons, c'est-à-dire il y a eu fécondation, mais qui ne sont pas implantés. Et 5 ans après, je ne sais pas, peut-être que sa loi a changé, mais en tout cas 5 ans après, les époux reçoivent une lettre, hein, s'ils sont encore ensemble. D'où la question aussi, qu'est-ce qu'on fait s'ils ne sont pas ensemble, reçoivent une lettre, qu'est-ce qu'il faut faire de ces embryons congelés. Et donc là, il y a une vraie difficulté. Et moi, je veux un peu plus me former sur la question, parce que j'estime ne pas être assez formé. Est-ce qu'on peut, par exemple, faire tout pour éviter ces embryons surnuméraires? Est-ce qu'on peut féconder ovocyte par ovocyte? Est-ce que, voilà, comment... Vous comprenez, la difficulté, elle est là. Donc, je pense que de ces questions-là, faites-vous accompagner, restez pas seul. Si un jour vous devez y faire face, restez pas seul. Et dernier point, la question de l'adoption. La question de l'adoption, je veux dire, l'enfant n'est pas un dû, l'enfant c'est un don. On est toujours dans le dû. On a le droit au congé payé, on a le droit à ceci, on a le droit à l'enfant. Non, l'enfant c'est un don. On rentre dans une logique de don. Du don du cœur, du don du corps et du don de l'enfant. Donc aussi, il peut y avoir ce qu'on appelle un acharnement procréatif, hein, où vraiment on veut un enfant à tout prix. Et puis ensuite, il y a plusieurs choses qui viendront après. Il y a ce qu'on appelle le DPI, c'est le diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'embryon, vous pouvez le passer au scanner, mais vous connaissez tout, parce qu'avec le décryptage du génome humain, maintenant, vous pouvez savoir s'il aura de la tension artérielle, c'est les couleurs des cheveux, évidemment, des yeux, mais évidemment garçon ou fille, etc., etc., risque de pathologie. Donc, la difficulté de ça, c'est qu'on arrive à un eugénisme. L'eugénisme, vous savez ce que c'est on traite les races pour arriver à la race parfaite. Et ça nous rappelle des très mauvais souvenirs dans l'histoire du XXe siècle. Et aujourd'hui, il y a un eugénisme par rapport aux personnes atteintes de trisomie 21, dont 96% sont avortées. Il y a eu un très bel reportage sur Antenne France 2, là, le jour de la trisomie 21, justement, où une famille m'a montré, ben voilà, la dernière des enfants avec eux. C'est une épreuve, la question du handicap d'un enfant. Je ne dis pas, je ne suis pas là. Mais en tout cas, je ne vois pas dans le mettre un terme à cette grossesse, je ne vois pas à la souffrance, on ne répond pas par la souffrance. Mais on répond par l'amour. Et on répond en n'étant pas seul. J'ai vu un très beau témoignage, peut-être vous l'avez vu aussi, de Anne-Dauphine Julien. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Anne-Dauphine Julien. Hein? Petit pas, deux petits pas sur le sable mouillé. Elle était invitée par Ardisson, qui est ce qu'il est. Donc du coup, mais Ardisson l'a interrogée, il en était presque ému aux larmes. L'amour de cette mère pour cette petite fille, je crois, handicapée, Thaïs. L'amour de cette mère qui l'a... elle allait vers la mort, oui, mais nous aussi, on va vers la mort. Il y a des parents aussi, je vous le dis, on dit, oui, mais votre enfant, il n'est pas viable. D'accord, ok. Mais je peux au moins l'emmener jusqu'à la vie et peut-être le baptiser si... ça aussi, c'est un acte d'amour et de respect de la personne. Mais je crois que de ce côté-là, il faut, si l'Église est peut-être a mis beaucoup l'accent sur cette question de défense de la vie, parce que progressivement, on appliquera aux personnes nées ce qu'on applique aux personnes non nées. Et on voit déjà des cas, toujours dramatiques, on est d'accord, de parents qui assassinent leur enfant handicapé. Alors c'est toujours dramatique, c'est toujours ce que vous voulez, c'est des parents souvent seuls en fragilité, il y a un cas, il n'y a pas eu très longtemps, il a étouffé sa fille handicapée, très, très lourdement handicapée, etc. Le drame de ces familles, bien sûr c'est le handicap, mais le drame de ces familles, c'est souvent qu'elles sont seules. Qu'elles sont seules face à l'enfant handicapé. Et moi, je vous invite aussi à réfléchir. Si on vous annonce, lors d'une échographie, un handicap parmi dans un enfant, etc., que vous attendez, il faut à froid, on ne sait jamais à chaud ce qu'on va faire, on est d'accord. Mais au moins à froid, il faut que vous ayez pensé. Et de se dire, il y a... Toute vie, il n'y a pas une vie qui est meilleure qu'une autre. Toute vie, il n'y a pas une vie qui vaut plus la peine d'être vécue qu'une autre. Et Anne-Dauphine Julien, justement, quand elle parlait de sa petite fille Thaïs, elle dit, c'est une vie à part entière.